J'ai finalement changé mon titre initial, qui était assez prosaïque, pour celui plus poétique et freudien de construction finie, construction infinie. C'est parce que, en fait, l'idée qui sous-tend ma présentation, c'est que la construction d'un objet de recherche n'en finit pas. Enfin, elle se finit avec la recherche quand on a décidé arbitrairement que la recherche était terminée. Donc, pour illustrer cette assertion, je vais prendre l'exemple de la recherche que je suis en train d'achever. En essayant de caractériser ce qui était son point de départ et le point où j'en suis aujourd'hui, en quelques phrases. Le point de départ, il est à replacer dans le cadre de ce qu'était le programme que j'ai présenté pour obtenir mon éméritat, l'INSERM, on nous demande de présenter un programme pour l'éméritat. Ah oui, à l'INSERM, c'est pas comme vous savez. D'accord. Oui. Et donc, mon programme de recherche initial était en fait de travailler sur les transformations, enfin la constitution et les transformations de la pédiatrie française. En gros, du 19e siècle jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'idée un peu de voir comment une spécialisation sur une population qui était l'enfance, à travers toute une série de transformations, aboutissait à une spécialisation, une hyper-spécialisation de la discipline pédiatrique, puisqu'aujourd'hui, il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine de sous-spécialités pédiatriques. Donc, ça, c'était le point de départ. Alors, en commençant à travailler... Alors, évidemment, je dis tout de suite que j'ai élaboré ce programme avec quand même un certain background. Donc, j'avais travaillé sur... la spécialisation en médecine, j'avais fait un travail sur la jeunesse du champ médical en France, et j'avais également travaillé sur un certain nombre de thèmes qu'on pourrait appeler des politiques de lutte contre, des politiques de lutte contre le cancer, contre le sida. Et donc j'aborde ce programme avec, je dirais, ce background. Et ce qui attire mon attention, c'est la relation, en tous les cas, c'est une relation que je pose, entre l'adoption par le Parlement en 1874 de la première loi de protection de l'enfance, donc plus connue sous le nom de loi Roussel, du nom du député qui était porteur du projet, et une loi qui institue un dispositif public de surveillance des nourrices recevant les enfants de la ville placés par leur famille à la campagne. Bien, cette loi précède de quelques années l'installation d'une chaire de pédiatrie, la première chaire de pédiatrie. Et ce qui attire mon attention, c'est que cette première chaire de pédiatrie, alors que l'hôpital dominant dans le domaine de la médecine des enfants est l'hôpital des enfants malades à Paris, cette chaire de pédiatrie va être confiée à un médecin qui est un spécialiste de la petite enfance et qui travaille à l'hôpital des enfants assistés, donc c'est un hôpital qui reçoit à la fois des enfants assistés et des nourrissons, les gens moins de 2 ans. Et donc, il me semblait que là, il y avait un élément intéressant, c'est-à-dire que on pouvait faire l'hypothèse forte que le choix de placer cette chaire dans l'hôpital des enfants assistés était lié à la genèse de préoccupations particulières autour de la question de la petite enfance, de préoccupations médicales et de santé publique. Bon. Mon idée au départ n'était pas de passer des années sur cette question-là, mais simplement de démarrer mon programme sur la construction de la pédiatrie. Mon point d'arrivée, quelques années plus tard, Je pourrais l'intituler de la manière suivante. Ce que j'ai fait pendant ces années, c'est une analyse socio-historique de la genèse des droits de l'enfant dans une phallo-démocratie libérale colonialiste, la France de la France du 19e siècle. Alors, si je dis une phallo-démocratie libérale, le terme m'est venu hier en écoutant l'exposé de Bernard Pudal, comme quoi la construction d'objets va même jusque dans les séminaires dans lesquels on discute de la construction d'objets. Bernard Pudal m'a convaincu de l'intérêt de donner une dénomination descriptive d'un régime politique, et ça m'a rappelé en même temps les travaux de Losordo, Domenico Losordo, qui caractérisait la démocratie américaine sous les termes de Erran démocratie, donc la démocratie des seigneurs. Et il me semblait que c'était intéressant de caractériser le régime français, enfin français, pas seulement français, mais de caractériser des régimes dans lesquels les femmes sont dépourvues du droit de vote, de la plupart des droits, phallo-démocratie. Alors on pourrait dire phallo-démocratie, phallo-aristocratie. Quand il y a le suffrage censitaire, on passe à une phallo-démocratie. Et je veux dire que la France devient un pays, devient une démocratie libérale après 45. Mais pas avant. Bon, ça me semble, en tous les cas, ça me semble intéressant de reprendre cette idée-là. Et en fait, elle venait coaguler d'une certaine façon un certain nombre d'idées qui me sont venues, je dirais même d'objets qui se sont construits au cours de cette recherche. Alors, je vais pas vous exposer tous les méandres de ma recherche, parce qu'il faudrait y consacrer un temps beaucoup plus important. Je vais essayer de cerner, en tous les cas, trois parties dans ma présentation. La première partie, c'est une partie, on pourrait dire, correspondant à la première étape de ma recherche, on pourrait caractériser comme ça par la rupture avec le sens commun et avec la forme que prend ce sens commun quand il fait l'objet d'une reconstruction savante. La deuxième partie abordera la question des construite dans ma recherche, celle des droits de l'enfant et de la logique de domination masculine et de domination de classe. Enfin, la troisième partie, que j'espère pouvoir arriver rapidement, enfin arriver jusque-là, sera comment ma recherche m'a amené à travailler sur la notion de bonne société, de mettre en rapport cette notion de bonne société avec les activités de bienfaisance, pour, à la fin, essayer une ébauche de construction de ce que j'appellerais un champ de la bienfaisance en France. Alors, à partir du moment où j'ai commencé je me suis dit qu'il fallait travailler sur le rapport entre la loi Roussel et la création de la chaire de pédiatrie, je suis allé voir un petit peu. Donc j'ai commencé à faire un premier travail de recueil de documents, de données sur cette loi Roussel. Et en particulier, je suis allé, grâce à Gallica et à toutes ces merveilles, j'ai commencé par travailler sur le texte de projet de loi du député Roussel, texte qui est tout à fait intéressant parce que une grande partie de ce texte est consacrée à une histoire de la genèse de la loi dont il est le porteur. Donc j'ai commencé par travailler à partir de ce qu'on pourrait appeler une histoire officielle, une histoire du point de vue du député qui porte le projet de loi. Alors il faut que je vous la résume en gros parce que sans ça devient difficile à comprendre. Alors, en gros, qu'est-ce qu'explique Roussel dans ce projet de loi ? il fait un historique. Cet historique, dans cet historique, il dit en gros que la surveillance des nourrices a fait l'objet de nombreux textes de loi sous l'Ancien Régime, que ces textes sont tombés en désuétude avec la Révolution française, que la création d'un bureau des nourrices de l'assistance publique a ouvert une période de sécurité pour les familles qui voulaient placer leurs enfants en nourrice à la campagne, mais que l'action de ce bureau des nourrices et son influence s'est trouvée fortement réduite par la concurrence que lui ont livré à partir des années 1820 des bureaux privés, particuliers, de nourrices, qui n'étaient pas soumis aux mêmes règles de surveillance mêmes règles contraignantes dans le choix et la surveillance des nourrices que celles que l'administration s'était imposées. D'où, toujours d'après Roussel, la constitution de ce qu'il appelle une industrie des nourrices, échappant pour l'essentiel à tout contrôle, avec des nourrissons abandonnés à leur sort et pour beaucoup promis à la mort. Pour Roussel, un texte va jouer un rôle majeur, c'est celui écrit en 1865 par un médecin de campagne, un médecin de la Nièvre, le docteur Monod, qui dénonce dans ce texte les effets de démoralisation et de dépopulation sur les campagnes du Morvan, provoqué par l'industrie des nourrices et qui explique en même temps comment cette industrie a des effets tout à fait délétères sur l'état de santé des nourrissons qui sont pris en charge dans les campagnes. Ce texte est adressé au préfet de la Nièvre. Le préfet de la Nièvre l'adresse au ministre de l'Instruction. La ministre de l'Instruction le transmet à l'Académie de médecine et commence un débat qui a porté sur 4 ans, une trentaine de séances de l'Académie de médecine sont consacrées à une discussion sur la mortalité infantile. Ce débat est alimenté par d'autres textes de médecins, dans lesquels il y a en général un réquisitoire en règle contre les nourrices et les meneuses travaillant avec les bureaux privés. La discussion de l'Académie de médecine, alors elle aborde des tas de questions, et puis elle va déboucher sur la demande d'une enquête de l'Académie de médecine à l'administration pour avoir des données statistiques conséquentes portant sur une dizaine de départements dans lesquels les enfants de Paris sont placés en nourrice. Les résultats de l'enquête montrent que il y a effectivement des différences considérables. La mortalité des enfants parisiens est entre 2,5 à 3 fois plus élevée que la mortalité des enfants du département et qui sont élevés par leur famille. Donc on arrive à des taux de mortalité qui peuvent aller jusqu'à 45%. Bon. Suite à cette enquête, l'administration met en place, enfin le gouvernement plutôt, met en place une commission avec des membres de l'Académie, des juristes, etc., qui prépare un projet de loi. Là-dessus, patatras, la guerre de 70, le projet est bloqué, et Roussel décrit comment lui, au lendemain de la guerre, reprend le projet, le porte, et pour le porter devant le Parlement. Bon. Alors, de quoi est-il question dans cette loi, hein, dans cette protection de l'enfance? C'est qui, alors ça il faut le souligner, c'est la première fois que, au fond, la protection des enfants en bas âge devient une affaire d'État. Bon. Alors, ce dont il est question, c'est d'assigner aux autorités publiques un nouveau devoir devant s'appliquer dans la situation où des parents ont décidé de se séparer temporairement d'un enfant de moins de 2 ans pour le confier contre rémunération, donc à ce qu'on appelle une nourrice mercenaire, qui assurera entièrement sa prise en charge à son domicile. Dans ce cas, la loi considère que le père, chef de famille, n'étant pas en mesure d'assurer la protection de sa progéniture, il revient à l'État de se substituer à lui. En conséquence, la loi fixe un cadre juridique de ce qui sera en France la première politique de lutte contre la mortalité infantile, en instituant la mise en place d'un dispositif public de surveillance des enfants placés en nourrice, dispositif qui combine des mesures légales fixant des obligations imposées aux nourrices, aux meneurs, aux bureaux, les devoirs incombant aux maires des communes où ces enfants sont domiciliés, enfin où les nourrices sont domiciliés, Et ce projet de loi combine ces mesures légales avec un dispositif de surveillance ad hoc, à savoir un service départemental d'inspection médicale et au niveau local, des commissions médicales composées du maire, du curé et d'un certain nombre de dames de charité, enfin voilà, les gens de ce qu'on appelait la bonne société de l'époque. Alors, je commence à recueillir du matériel sur... parce que cette loi me semble quand même intéressante, hein, par les transformations qu'elle implique. Donc, je recommence à recueillir du matériel, les écrits du docteur Monod et d'un certain nombre d'écrits. Je fais une recherche Google avec le thème « mortalité infantile ». Je m'aperçois, en fait, que le thème mortalité infantile apparaît dans les articles médicaux à partir de 1865. Qu'avant, c'est un thème qui n'apparaît pas. Donc là, on a un élément tout à fait intéressant. On peut dire voilà, il y a une mayonnaise qui a pris. À partir du débat de l'Académie de médecine et du rapport de Monod, on se met à écrire, les médecins se mettent à écrire. Bon. Je trouve des documents également sur une société protectrice de l'enfance qui est fondée par un médecin, le docteur Mayer, début 65, donc juste avant la publication du texte de Monod. Et que cette société protectrice de l'enfance regroupe des médecins et puis, là encore, un ensemble de personnalités appartenant à la bonne société parisienne. On a des aristocrates, des négociants, des banquiers. D'où l'idée que il y a un mouvement social qui se constitue. Un mouvement social qui se constitue et qui s'organiserait autour de cette société protectrice de l'enfance. À ce moment-là, la mémoire me revient et je me souviens que j'ai lu dans le temps, dans des périodes très lointaines, une partie en tous les cas d'un énorme bouquin écrit par une historienne de la démographie ou une démographe historienne, Catherine Rollet, gros pavé sur les politiques de la Troisième République en faveur de la petite enfance. Et donc, livre qui est qu'on peut considérer, vu le nombre de citations, comme une référence dans un peu global sur toutes ces questions de l'enfant. Je commence donc à lire la partie dans ce texte de Catherine Rollet consacrée à la jeunesse de la loi Roussel, deux gros chapitres, dans lequel elle reprend les faits retracés par Roussel dans son projet de loi. Et elle défend l'idée qu'une prise de conscience s'est opérée au milieu des années 65 à travers la convergence de deux courants du corps médical qu'elle caractérise très brièvement. D'une part, des médecins parisiens préoccupés pour des raisons idéologiques, par la promotion de l'allaitement maternel. D'autre part, ce qu'elle appelle des médecins ruraux qui, s'appuyant sur leur expérience et procédant à des observations de longue durée et des études statistiques, se sont inquiétés du sort tragique des nourrissons placés par leur famille à la campagne. Cette prise de conscience qui est initiée par des médecins, donc on pourrait presque appeler des lanceurs d'alerte, cette prise de conscience est le point de départ, pour elle, d'un travail de ce qu'elle appelle la mise à nu de la réalité, travail réalisé en grande partie par l'Académie de médecine et par l'administration. Et que c'est ce travail de mise à nu qui met en évidence les dysfonctionnements et qui aboutit à la loi. Travail très conséquent, travail sérieux, travail documenté, tellement bien fait, production de données statistiques de l'époque, etc. J'en viens à penser que c'est peut-être pas nécessaire de continuer le travail que j'ai entamé. Je vais citer Rollet et puis voilà, je vais passer à ce qu'était mon idée initiale. Mais j'avais quand même commencé à entreprendre un petit travail, donc c'est toujours... Voilà, c'est toujours un peu décevant de se dire, après tout, le travail a été fait par quelqu'un d'autre. Bon. En fait, c'est Heureusement que je n'ai pas commencé par travailler à partir, comme j'aurais dû le faire sans doute, à partir d'une analyse de la bibliographie des secondaires, parce que j'avais quand même commencé à accumuler suffisamment de données pour qu'il y ait des choses qui me titillent un petit peu dans cette histoire-là. Et en même temps, j'ai commencé aussi à m'interroger sur ma réaction. C'est-à-dire que j'étais prêt à abandonner le travail là-dessus. Pourquoi j'étais prêt à abandonner le travail là-dessus ? C'est parce que l'énormité des chiffres de la mortalité faisait que, enfin, ou plutôt que devant l'énormité de ces chiffres, de l'ordre de 20%, enfin 17 à 20% sur sur le pays tout entier, mon sens commun, enfin, dirais ma, le fait que je suis pris dans le sens commun de mon époque, m'amenait à considérer qu'évidemment, avec des chiffres comme ça, si des médecins commencent à découvrir que la mortalité est aussi importante, c'est normal qu'ils se mettent en place tout de suite une politique de lutte. Surtout que, voilà, je réagis avec l'habitus de quelqu'un qui est socialisé dans une société où la mort des enfants, c'est un scandale, et où quand on parle de mortalité infantile, on est toujours de l'ordre de... On ne fait pas ça en termes de pourcentage, mais en termes de pour mille, et que les travaux de l'OMS et tout ça montrent qu'à chaque fois que ça monte un petit peu, la mortalité infantile, en fait, c'est un indicateur du degré de développement. Et je suis pris dans cette vision-là. Et en fait, voilà, c'est parce qu'il y a des choses qui me chiffonnent dans la façon dont a travaillé Catherine Rollet que je vais commencer à m'interroger, moi, sur mon propre rapport à cette réaction spontanée à la mortalité infantile. Alors, ce qui me chiffonne dans le travail de Rollet, d'abord, c'est que son analyse de discours, il travaille beaucoup, il est sur tous les discours de l'Académie de médecine, elle est totalement asociologique. C'est-à-dire, elle analyse des discours en soi, il n'y a jamais de relation entre les discours, les producteurs de discours, la position des producteurs de discours, l'espace des points de vue, etc. Bon. D'autre part, Catherine Rollet n'accorde aucune importance à l'existence de cette société protectrice de l'enfance. Alors que les travaux que j'avais menés sur la lutte contre le cancer, la lutte contre le sida, m'avaient vraiment convaincu que dans la fabrication, je dirais, d'une politique publique, le rôle des mouvements associatifs, le rôle des mouvements sociaux étaient en général des déclencheurs très importants. Du coup, ça m'amène effectivement à revenir sur ma réaction première et, au fond, à me rendre compte que j'ai été totalement dépassé par mon sens commun et que j'en ai oublié ce qui avait été au fondement de pratiquement de toutes les recherches que j'avais faites sur les politiques de lutte contre, dans lequel, effectivement, dans ma construction d'objets, l'idée que une politique publique se constituait à partir du moment où des agents avaient construit un problème social comme problème social. Que ce n'était pas les effets de la réalité qui s'imposaient à la conscience, mais qu'on avait toujours un travail social de construction d'un objet. Alors là, ce n'est pas un objet sociologique, mais de la construction d'un problème social comme problème social. Et donc, il faut ce travail-là pour que je commence à formuler ma question de recherche de départ d'une toute autre manière, qui est formulée dans ces termes. Comprendre comment et pourquoi, dans le courant des années 1860, des agents se sont employés à convaincre leurs contemporains que le niveau de mortalité infantile lié à la mise en nourrice constituait un problème majeur pour la société française. Donc cette question me conduit à faire du mouvement social de protection de l'enfance engagé dans la lutte contre la mortalité infantile l'objet même de ma recherche. Alors, petit aparté, disons, sur... Au fond, J'ai retravaillé après le texte de Rollet et j'en ai déduit qu'elle avait commis une double erreur. D'une part, alors, en ayant en tête les travaux de Léon Murard et de Patrick Zitbermann sur les prétentions de l'hygiène publique à se penser comme une science sociale appliquée, on pouvait dire que l'analyse proposée par Catherine Rollet pouvait se lire comme la réalisation du rêve hygiéniste, rêve souvent déçu, de guider les pouvoirs publics dans l'adoption d'une politique rationnelle où le travail savant de dévoilement d'une réalité méconnue procède puis oriente la décision politique. Au fond, elle avait épousé le point de vue de ceux qu'elle étudiait et avait décrit le processus de décision politique comme obéissant à un modèle de pure rationalité. D'autre part, je pouvais constater qu'elle respectait, dans son analyse, les grandes lignes de l'histoire officielle écrites par Roussel. Elle reprenait les mêmes périodes, les mêmes acteurs. Bon. Or, dans cette histoire officielle de Roussel, celui-ci n'accorde aucun rôle véritable au rôle, disons, au mouvement social organisé dans la SPE. Cette histoire officielle, évidemment, une des premières tâches du sociologue, c'est à la fois de s'en servir parce que ça permet de débroussailler une question, mais en même temps de la construire comme objet, disons, dans la recherche, de l'interroger, d'en faire un objet d'étude, et en particulier de se poser les questions sur les enjeux politiques qu'un politique peut avoir à présenter une histoire de la façon dont il la présente. Bon. Alors, ce qui était intéressant, alors, et qu'au fond, l'historienne Catherine Rollet n'avait fait que donner une forme de légitimation scientifique à ce qu'était l'histoire officielle. Alors, cette logique politique de Roussel, en fait, elle apparaît quand on commence à travailler sur la SPE et sur les activités que déploie cette société protectrice de l'enfance depuis sa fondation juste au vote de la loi. À savoir qu'une partie très importante des activités de la SPE consiste à la fois à organiser le mouvement de protection de l'enfance en l'étendant, donc ça commence à Paris la SPE, mais c'est l'étendre à la province, il va y avoir la création de sociétés protectrices de l'enfance dans toute une série de régions du pays, et cette SPE met en place un dispositif de surveillance des nourrices. Et comme par hasard, ce dispositif de surveillance des nourrices se compose d'une surveillance faite par des médecins inspecteurs bénévoles de la SPE qui se combine avec des comités locaux de patronage des enfants dans un certain nombre de villages ou petites villes du pays dans lequel on retrouve cette bonne société locale. Donc, on peut voir en fait que l'ASPE met en place un dispositif expérimental. Ce dispositif expérimental sera recopié dans la loi. La loi reprend la même chose, à cette différence près que si on fait travailler des bénévoles dans le projet de loi, c'est-à-dire c'est l'État qui contrôle. C'est l'État qui met en place le dispositif, qui contrôle le dispositif, qui, c'est en gros le préfet, dans chaque département, c'est le préfet qui est responsable de l'organisation de l'inspection. Et que ça va être donc une piste de recherche, ça laisse penser qu'un des enjeux de la politique de protection de l'enfance instituée par la loi est d'imposer son autorité à l'association philanthropique en marginalisant son intervention dans la surveillance des nourrices. En ce sens, le projet de loi, enfin la loi plutôt, sanctionne une certaine conception des rapports entre l'État et la philanthropie et une certaine conception de la façon dont les rapports entre philanthropie et État peuvent contribuer au bon gouvernement de la société. Il ne me reste plus que 5 minutes ?
Ouh là là. Bon, alors là...
Je vais essayer, si vous voulez, en allant très 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 vite, de retracer les grandes lignes de la démarche. Je dirais que poser la question comme je l'ai posée, ça m'a amené d'une part à essayer de comprendre quelles avaient été... Enfin, c'était de me dire, il y a un changement dans le regard social sur la mortalité. Brutal. Un changement brutal qui fait que la mortalité devient un problème social et construit comme un problème social à un moment donné. Ce qui veut dire qu'elle ne l'était pas avant. Donc la question, pourquoi ne l'était-elle pas avant ? Bon. Donc ça m'amène à travailler sur, au fond, les rapports entre la démarche objectivante consistant à faire des tables de mortalité et donc à objectiver la mortalité dans des statistiques, et ce que pouvait être la perception sociale de la mort des enfants à une époque donnée. Bon. Perception sociale de la mort des enfants dont on peut dire qu'elle est déterminée par les entreprises consolatrices de ceux qui, effectivement, essayent de consoler les parents d'avoir perdu leurs enfants. Bon, c'est le paradis pour les... Bon, voilà, c'est religieux. Et que pendant des siècles, parce que ça c'est même pas le 19e, pendant des siècles, la mort des enfants a été considérée comme un phénomène douloureux mais banal. Bon, et je vais trouver d'ailleurs dans ma recherche, je vais montrer dans ma recherche en quoi le discours des cliniciens qui constituent la clinique de la petite enfance, va venir donner une forme de légitimation savante à cette banalité de la mort des enfants. Et que c'est ça qui fait obstacle à la prise, enfin en tous les cas, à l'émergence de préoccupations sociales sur la mortalité infantile. Ça, c'est le premier point. Alors, je ne pourrais pas passer en vue tous les objets secondaires que j'ai été amené à construire au fur et à mesure que j'avançais dans ma recherche. À chaque fois que j'avais des données, des documents, que je travaillais ces documents, ça m'amenait à construire des objets partiels, on pourrait dire. Alors, je parlerai simplement d'un seul. Alors, comment la question des droits de l'enfant telle qu'elle est formulée par les dirigeants de la Société protectrice de l'enfance, en fait, opère une division entre deux types de droits, enfin, plus exactement, deux types de devoirs, à partir d'une définition des droits de l'enfant, de deux types de devoirs pour les parents, le devoir paternel et le devoir maternel. Comment le devoir paternel, il est inscrit dans une vision historique évolutionniste ? À savoir, on dénonce les sociétés patriarcales dans lesquelles le père avait le droit de vie et de mort sur ses enfants, etc., pour arriver à l'idée que il faut, comment dire, organiser un système de liberté raisonnable pour les pères de famille, et que cette liberté raisonnable, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'il n'a pas... qu'il n'a pas à faire et qu'en particulier, il ne peut pas se désintéresser du sort de ses enfants une fois qu'ils sont mis en nourrice, et que s'ils s'en désintéressent, eh bien c'est à l'État de prendre la place du père. Bon. Et si les droits du père sont inscrits dans une logique sociale évolutionniste, les droits de la mère sont inscrits dans l'ordre des choses, dans l'ordre de la nature. Bon. Là-dessus, je travaille le texte de Rémy, sur la famille, bon, comment à un moment donné effectivement la femme va être définie par rapport à sa fonction maternelle, et dans cette fonction maternelle on vient à m'intéresser à la question plus particulière de l'allaitement maternel, hein, et de la façon dont cette vision de la femme détermine, au fond, la manière de penser l'allaitement maternel, l'allaitement artificiel, c'est-à-dire par le lait animal, et l'allaitement par les nourrices. Bon. Je finis, mais on pourra toujours... Non, mais c'est... Ce qui ressort de ce travail, c'est que... le droit, la façon de penser les droits de l'enfant s'inscrivent dans une logique à la fois de domination masculine, à savoir une femme devenue mère, assujettie par ses fonctions naturelles à la protection de ses enfants, l'allaitement étant le meilleur moyen. Je passe là-dessus. Et en même temps, à une logique de domination sociale, dans la mesure où une des grandes discussions, par exemple parmi les médecins, c'est la discussion autour des contre-indications à l'allaitement maternel. Et on peut dire qu'on a, sur les contre-indications à l'allaitement maternel, l'affrontement entre deux conceptions qui sont en fait deux approches différentes, deux définitions différentes des modes d'exercice de la domination masculine. Une conception consistant à penser que le mode d'exercice privilégié de la domination masculine doit se faire par l'assujettissement de la femme à l'élevage des enfants. L'autre conception, on pourrait appeler libérale, étant le fait que cette domination masculine peut permettre un certain degré d'autonomie de la femme dans des activités qui ne relèvent pas uniquement de l'élevage des enfants. Et qu'on a ce conflit entre ces deux oppositions qui vont traverser tout le débat sur la protection infantile. Voilà. Alors je termine en disant que je ne traiterai pas la question qui était, qui m'a beaucoup intéressé, qui était celle sur la bonne société et la construction du champ de la bienfaisance, et que je laisse ça éventuellement à discussion s'il y a des gens que ça intéresse. Voilà.
Merci Patrice. Là, du coup, on a vraiment le cheminement des actes de la construction d'objets. Bon, on y reviendra tout à l'heure.